Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drag bruxellois. Je vous l'annonçais il y a 2 semaines, le 9 mai dans le cadre de la Pride Week aura lieu la journée Freaks et Merveilles. En après-midi, table ronde sur le drag, ses enjeux et son avenir, et le soir, un grand show de clôture de la saison 1 et d'ouverture vers la saison 2. Au programme de la pole, du voguing, du boylesque, du stand-up, un show dingue. La pub arrivera par Instagram et ailleurs, mais bloquez déjà votre jeudi 9 mai, c'est un jour férié, au Grand Carme, dans le centre de Bruxelles. Et en attendant, revenons au présent avec l'invité du jour.
Parce que j'aime bien, du coup, faire un personnage qui puisse, incarner un personnage visuellement, qui puisse être tout à la fois. Et en étant réaliste, on confronte avec l'image que le public se fait d'un homme ou d'une femme, entre gros guillemets. Je pense qu'à la base aussi, l'art drag, c'était personnifier des femmes. Ça, le nombre de personnifications qu'il y a, de célébrités, de choses comme ça, le prouve. Et je crois que moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'ai envie de faire un personnage en fonction du numéro que je fais, qui peut s'adapter, donc qui est très fluide. Et c'est pour ça que le côté gender fluide apparaît à ce moment-là. Je sais pas exactement si c'est une volonté d'être clown ou une volonté d'être fluide.
Aujourd'hui, dans Freaks et Merveilles, je reçois une personne que j'ai bien connue dans une autre vie, puisqu'on a fait nos études de théâtre au même endroit et plus ou moins au même moment. Puis nos chemins ont divergé et le drag nous a remis dans les mêmes sphères. Mais si je l'invite, c'est surtout pour sa capacité à défier et détourner le genre et les genres, à créer des looks et des performances toujours plus dingues et variées, en mêlant pertinence et humour, clown et engagement. Cet autoproclamé drag-truc passe sans complexe du femme au masque, de la vache au papier bulle, pour repousser toujours plus loin les limites de son drag et la définition même de ce qu'est le drag. Aujourd'hui, je reçois Sherry Chapstick. Avec lui, on a parlé créativité et adaptation, envie et responsabilité, spontanéité et travail. Attention, comme vous le savez désormais, du temps a passé entre l'enregistrement de cet épisode et sa diffusion. Depuis, la baraque à Kings a grandi, Sherry aussi. Gardez ça en tête pendant votre écoute. Belle écoute et à bientôt. Eh bien, bonjour Sherry Chapstick. Bonjour. Comment est-ce que ça va aujourd'hui?
Ça va bien. Et ouais. Toi?
Oui, ça va bien. Sherry Chapstick, tu es non-binaire jusque dans ton nom de scène, qui s'écrit avec un point médian E,
ouais.
De quoi faire rager les rageux. Ton esthétique voyage et explore les genres, comment ça se passe pour toi cette navigation dans le drag?
Pour moi, cette navigation dans le drag, c'est rendre visible ma navigation dans le genre. Je me considère comme non-binaire et gender fluide. Et pour moi, c'est plus facile d'utiliser ça comme outil que de moi me sentir chaque jour différente. Ça varie en fait, l'expression de genre varie. Et j'avais envie de jouer là-dessus dans le drag pour aussi pas me cantonner à une seule case. J'avais pas envie en tant que personne affable de juste faire du king parce que c'est des stéréotypes aussi qui parle de temps en temps, mais pas dans tout. Et du coup, en fait, pouvoir jouer avec ce qui rend féminin, ce qui rend masculin et m'approprier ces codes, c'est hyper important pour moi.
Trop bien. Et c'est peut-être un peu plus un safe space pour explorer ça qu'au jour le jour dans la rue, ou tu te sens assez safe au quotidien pour faire ça aussi en tant qu'Eden?
Au quotidien, en fait, j'ai l'avantage, entre gros guillemets, d'être perçue dans la rue comme une meuf. Ce qui fait que si je mets une jupe, je ne vais pas avoir d'agression physique à part de l'harcèlement de rue, je pense. Je pense que dans ma vie de tous les jours, j'ai une attitude, une expression de genre qui est un peu plus masculine, mais qui reste encore dans un spectre du genre classique. Parce que aussi je suis pas hormonée, j'ai un passing encore de meuf, je pense, un peu butch, mais voilà.
Ok. Ok, et mais d'ailleurs, tes make-up contribuent aussi à cette exploration, qui sont des make-up que moi je trouve vraiment incroyables et qui souvent ne sont pas réalistes, qui ne visent pas à donner l'illusion d'une vraie peau et des standards qu'on a habituellement dans le drag, en tout cas le drag king et aussi souvent le drag king. Et donc du coup, toi, à quel point est-ce que le make-up a une grosse place dans ton drag, puisqu'on est ici aussi pour parler make-up, notamment dans la création de numéros, de looks, dans ta démarche artistique en général. Est-ce que le make-up, c'est par là qu'est arrivé Chérie?
Ouais, je pense que Chérie est arrivée par des grosses insomnies que j'avais, et que c'était des insomnies qui se passaient en période de Covid, et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire à part être chez soi. Et j'ai beaucoup joué aux Sims, mais j'ai aussi beaucoup peinturluré ma face. Et oui, en fait, je pense qu'il y a un mélange pour moi entre l'amour que j'ai de l'esthétique du make-up et l'amour que j'ai de la scène. J'ai un parcours théâtral avant, comme toi, enfin, on sort de l'école.
On en parlera plus tard, ouais.
et du coup, il y avait cet amour de la scène et l'amour de partager des choses sur scène, mais qui parfois, pour moi, avait besoin d'une esthétique. Parce que je trouve que des messages, le premier message que tu vois sur scène, c'est quelque chose de visuel, en tout cas avec l'essence que j'ai. Du coup, il y a vraiment quelque chose qui me manquait un peu dans le théâtre que je faisais avant. Et oui, du coup, l'apparition des Chérie Chapstick, c'était aussi me réapproprier le maquillage qu'on considère comme féminin, tu vois. Quand j'étais gosse, j'étais en mode, moi, je me maquillerai jamais, gna gna gna, c'est pour les filles. et puis, j'ai grandi en étant ado, en faisant, je dois être une femme, je vais me maquiller super bien et je vais apprendre toutes les techniques possibles. Bon, ça n'a pas marché, mais j'ai appris plein de choses.
Tu as échoué à devenir une femme.
C'est ça, mais j'ai réussi à devenir moi. Ouh.
Ce qui est peut-être mieux.
Oui, je pense pour moi, en tout cas, ouais. Et en fait, oui, c'est ça, j'ai appris plein de choses. J'ai fait des formations de maquillage. C'est un domaine qui m'intéresse hyper fort parce qu'en fait, on peut beaucoup transformer. Et j'ai la chance d'avoir une super grande sœur qui a fait une formation de maquillage professionnelle. Et donc, j'ai piqué plein de trucs qu'elle a... Et ça m'a permis aussi de me dire, enfin de voir ce qu'elle faisait, de me dire, ah mais en fait on peut utiliser le maquillage pour transformer complètement le visage. Donc ça venait de là, et j'ai fait aussi du grimage, j'ai fait du cosplay aussi. Donc il y a vraiment ce truc de transformation qui venait pour moi par le maquillage. Étant donné que je ne sais pas coudre, je sais me peinturer la face, le choix était vite fait quoi.
Waouh, trop bien. Et ouais. Dès le début, quand... de maquillage hors drag, t'es passé à du maquillage drag. Est-ce qu'il y a eu tout de suite cette volonté d'explorer les genres et au-delà des genres parce que je trouve dans tes make-up, il y a des éléments qui parfois sont très anguleux, masques avec souvent des moustaches, mais aussi des choses très colorées, parfois très rondes, et le tout vient se mélanger de manière absolument formidable. Mais est-ce que ça, c'était présent dès le début, cette volonté d'utiliser le make-up pour croiser les genres?
Ouais, je pense. En fait, au début, il y avait le maquillage de clown aussi qui était fort présent, parce que j'ai beaucoup travaillé le clown. Et du coup, cette face blanche sur laquelle on peint d'autres expressions, entre le drag et le clown, il n'y a qu'un pas, pour moi. Et donc, il y a ce truc-là déjà de pas de peau naturelle. Et aussi, étant donné que je me maquillais pendant une grosse période pour, entre guillemets, être féminine, j'avais pas envie de faire la même chose en fait, parce que oui, j'ai appris pendant des années à faire des techniques de maquillage de beauté, et j'avais envie d'aller plus loin et d'amener directement du fantastique en fait là-dedans, que ce soit dans les paillettes, que ce soit dans la moustache, que ce soit, je sais pas, j'avais pas envie de quelque chose de naturel, entre guillemets.
Et ta sœur, du coup, sa formation, c'est en make-up naturaliste, en make-up...
Non, c'est maquillage de scène.
C'est maquillage de scène, déjà.
Ouais.
D'accord.
Ouais, voilà. Donc, il y a aussi ce truc où, je pense, j'ai toujours baigné dans un univers très artistique de théâtre amateur. Mes parents faisaient du théâtre amateur et tout. Donc, je suis vraiment dans des costumes à la maison, dans du grimage qu'on se met le samedi pour faire un spectacle à maman devant le salon, tu vois. Enfin, il y a toujours eu un peu ce truc-là. Et ouais, en fait, quand j'ai commencé à me dire « Ok, je peux faire du drag », c'était un peu après Not Allowed, les débuts des shows que j'avais vus, et que j'avais vu aussi Gotmik à la saison 13, je pense, de Drag Race. Et ouais, en fait, en voyant Gotmik avec ses maquillages et en voyant Not Allowed avec ce qu'elle proposait sur scène, je pense que les deux ont en fait un peu chéri chapstick, tu vois.
Yes.
Ça a donné un peu naissance à ça.
Trop bien, trop bien. Et du coup, dès le début, ta sœur t'a accompagné genre explicitement dans le drag. Elle avait un rapport au drag, ou elle connaissait le drag quand toi t'as commencé, ou bien t'as un peu hacké ce qu'elle utilisait pour d'autres choses pour...
Alors, j'ai fait bien le petit sœur et j'ai bien volé tout ce qu'elle avait. Mais non, en fait, elle m'a fait découvrir Drag Race, pour le coup, mais j'ai exploré moi-même les techniques de maquillage. De temps en temps, je lui demandais conseil, mais comme j'ai pu demander conseil à d'autres drag queens que j'ai pu rencontrer après, genre Sugar Bobby Drag ou Bobby Grant qui est à Lille, et, c'était une amie en commun, et donc c'est elle qui m'a appris à coller mes sourcils, par exemple.
Et justement, qu'est-ce qui pour toi différencie, toi qui avais déjà apparemment pas mal de techniques de maquillage classique, on va dire, ou de maquillage comme des personnes assignées femmes peuvent apprendre au quotidien, qu'est-ce qui du coup différencie pour toi ce maquillage-là du maquillage drag? En plus, bon, moi je vois ça assez de l'extérieur, mais je vois que de plus en plus, par exemple, il y a du contouring qui arrive ou qui est déjà là dans le make-up ordinaire, entre guillemets, dans le make-up de la vie de tous les jours. Il y a pas mal de gens qui mettent des faux cils, qui mettent des wigs, etc. Donc, en fait, les frontières se floutent un peu. Mais pour toi, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de spécifique au drag?
Je crois que c'est assez flou parce que le drag emprunte à la... Enfin, le drag... Le plus visible, c'est les drag queens, et elles empruntent des codes de la féminité, du maquillage, de la mode féminine. Et maintenant aussi, les influenceuses prennent au drag certaines techniques. Et je pense que c'est une roue sans fin. Mais oui, effectivement, maintenant, il y a pas mal d'influenceuses qui utilisent la technique de la poudre en dessous de la joue pour faire un truc un peu snatch. Je crois que c'est cool, en fait, tant que tu sais aussi quels effets ça fait sur ta peau. Il y a beaucoup de maquillages aussi qui peuvent être très toxiques pour la peau. Le maquillage drag est super toxique. Et le maquillage de beauté peut l'être aussi. Donc, il faut juste savoir que c'est un truc d'artifice, en fait. Et que même quand on se maquille en étant affable, en étant femme, cisgenre et tout, en fait, c'est une sorte de performance de genre. Le fait de mettre un eyeliner, des faux cils, une bouche rouge, ça renvoie des signes qui sont empruntés à... au règne animal, tu vois, l'eyeliner, ça vient vraiment de l'œil de guépard, enfin, tu vois, de ce truc un peu la bouche rouge aussi, enfin, bref, voilà, toutes les parades animales qu'il y a, en fait, on les a dans le make-up aussi.
Il y a beaucoup d'analyses
quoi.
Qui disent que la bouche rouge, c'est censé renvoyer à la vulve,
voilà.
etc., enfin, qu'il y a des codes comme ça. Mm-hmm. Yes, et donc oui, le drag, mais en plus, bon, ben, le drag comme toi tu le pratiques et comme moi j'aime de plus en plus le pratiquer aussi, on sort justement de de ce rapport un peu entre guillemets réaliste ou crédible pour affirmer un maquillage qui est plus un maquillage de scène.
Ouais.
Est-ce que pour toi du coup, c'est une manière de quitter les codes de genre binaire et d'aller voir ailleurs ou de revendiquer un côté clown à ton drag comme tu le disais ou... Pourquoi, à ton avis, tu quittes cette espèce de réalisme, entre guillemets, de make-up ?
Parce que j'aime bien, du coup, faire un personnage qui puisse... Enfin, en tout cas, incarner un personnage visuellement qui puisse être tout à la fois. Et en étant réaliste, on confronte avec l'image que le public se fait d'un homme ou d'une femme, entre gros guillemets. Je pense qu'à la base, aussi, l'art drag, bah, c'était personnifier des femmes. Ça, le nombre de personnifications qu'il y a... de célébrités, de choses comme ça, le prouve. Et je crois que moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'ai envie de faire un personnage en fonction du numéro que je fais, qui peut s'adapter, donc qui est très fluide. Et c'est pour ça que le côté gender fluide apparaît à ce moment-là. Je sais pas exactement si c'est une volonté d'être clown ou une volonté d'être fluide. Je sais pas. Voilà, en gros.
Ok, ok.
Mais oui, en fait, je trouve ça chouette aussi maintenant quand je me maquille, entre gros guillemets, naturellement. Donc, je l'ai fait la dernière fois pour la Baraka King, où j'avais un teint plus naturel, puisque tous les autres artistes étaient très, très colorés. Et je me suis dit, bah tiens, si je me fais mon maquillage d'habitude, on va être tous dans ce truc-là, très clown et tout. Bah tiens, aujourd'hui, c'est l'occasion de changer. Et j'aime bien me faire des petits défis comme ça, à chaque fois, réinventer un maquillage. Pour moi, c'est vraiment une partie que j'adore, 2h30, 3h avant le show, où je suis juste là, genre, et si je mettais des paillettes là, ce serait cool, oh, ce serait bien, oh, ma bouche, elle est comme ça, oh, ouais, trop bien. Et c'est à chaque fois des nouvelles explorations. Il y a tellement de techniques de maquillage que on peut pas, enfin en tout cas moi je veux pas me cantonner à ça, c'est mon maquillage et c'est cette petite boîte là. Je pense j'ai du mal avec les boîtes en général, donc j'ai envie de tout explorer. De,
trop bien. Voilà. Et justement, d'où est-ce que tu tires tes inspi, est-ce que c'est effectivement des techniques, des vidéos que tu vois, est-ce que c'est des performances que tu vois, ou est-ce que simplement tu te lances avec une espèce d'image en tête de quelque chose vers lequel tu voudrais tendre, ou...
Je crois que ça varie. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inspiration d'autres artistes drag que j'observe et que j'admire dont j'admire le travail. Mais il n'y a pas que ça. Je suis fort influencée aussi parce que je dessine et donc par les dessins que je fais, par d'autres techniques plus de peinture et d'art plastique en fait. Et je pense que ça donne aussi un avantage sur moi, ma manière de dessiner parfois sur mon visage. Je pense à mes yeux, par exemple, qui ont des formes parfois très naturelles, entre guillemets, et qui parfois ont des... Comment on dit ? Les paupières basses, beaucoup plus bas, et donc ça donne un côté un peu clown ou manga, étant donné que j'étais fort influencée par ça, par la culture du dessin manga plus jeune, ça ressort en fait à ce genre de moment. Et ça vient aussi de photos d'animaux parfois que je vois. Je me dis, waouh, ces couleurs-là, en fait, ça va super bien ensemble, j'avais jamais vu. Et je pense que l'inspiration, elle peut venir de partout, d'architecture aussi, de géométrie, enfin voilà.
Tu dis que t'aimes bien faire un make-up qui colle au numéro que tu vas faire, etc. Mais souvent, en show, tu présentes deux, voire même parfois trois numéros. Mm-hmm. Du coup, comment on fait quand on a... Parce qu'évidemment, chaque numéro a son identité et idéalement a son make-up qui va bien.
Ouais, bah du coup, j'ai des numéros qui suivent bien. Étant donné que je fais toujours beaucoup d'insomnie, maintenant, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais faire comme autre connerie sur chaîne. Et donc, j'ai beaucoup d'idées de numéros et il y en a certaines qui ont, entre gros guillemets, des thèmes. Tu vois, il y a le thème un peu du clown qui revient, donc j'ai quelques performances là-dessus et qui peuvent se suivre avec un maquillage qui pourrait être similaire. J'ai des performances qui sont plus naturalistes quand j'imite par exemple une meuf de droite anti-mariage pour tous et tout. C'est plus facile pour moi d'avoir un maquillage naturaliste pour ça. Et j'ai des techniques aussi. Maintenant, j'ai investi dans un... Investi genre, c'est 10 millions d'euros, c'était 15 balles. Mais c'est beaucoup pour moi. Pour un postiche, donc je peux enlever pour une performance, me maquiller vite fait au-dessus et remettre après si je veux refaire un personnage plus masculin. Voilà. Et,
oui, un je postiche, pense... genre une fausse moustache.
Oui, c'est ça.
Ah oui, trop bien.
Voilà. Et aussi le fait que beaucoup de, enfin, je pense beaucoup de mes numéros peuvent être vus comme un acte de clown ou un acte de drague. Bah. Je trouve ça intéressant en fait de parfois faire du drag en étant maquillée comme un clown. Tu vois, par exemple, mon numéro où je fais Johnny Hallyday, voilà, un grand moment de beaufrie. souvent, en fait, je finis avec une tête de clown là-dessus, mais c'est Johnny, et en tout cas, c'est mon hommage à la culture beauf, et que je sois maquillée en clown ou pas, c'est pas très grave. Justement, en fait, ça met de la distance, je pense, par rapport à ce personnage qui est Johnny Hallyday, qui est quand même assez problématique à plein d'endroits, même si je suis venue avec un pull de lui aujourd'hui, parce que j'adore. Mais oui, je pense que la distance, elle fait du bien aussi parfois, pour traiter ce genre de sujet. Quoi.
Yes. Et justement, des gens qui voudraient commencer le maquillage ou qui n'auraient pas trop de thunes, parce qu'on a parfois l'image que pour commencer à faire du drag, il faut s'acheter plein de matos, etc. Est-ce que tu aurais des conseils, ou toi, comment tu as commencé quand tu... commencer des premières explos
C'est vrai que au niveau de la qualité du maquillage, ça change beaucoup. Du produit de maquillage, je veux dire. Quand tu utilises du maquillage à l'eau, ça ne va pas rendre la même chose que du maquillage gras, sauf que le maquillage à l'eau coûte 2 euros, le maquillage gras coûte 15 balles. Et je pense que ça peut être intéressant de tester avec ce que tu as chez toi et que quand tu peux, t'investisses. Mais effectivement, ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Moi, je sais que j'avais déjà des choses chez moi, donc avec lesquelles j'ai pu tester, plein de palettes, plein de trucs, parce que j'avais toutes ces années de performance meuf derrière moi, et que ça a toujours été une grosse exploration. Après, c'est des choses qu'on chine, qu'on trouve, que j'attends des soldes, j'achète pas forcément sans réfléchir, et je me renseigne sur le produit avant de l'acheter, donc ça m'évite aussi d'acheter des choses... Enfin, au tout début que je voulais faire mon teint blanc, j'avais acheté une sorte de fond de teint blanc de chez NYX, mais qui était très très mauvais en fait pour ce que je voulais faire, qui était vraiment dégueulasse. Et là j'étais purée, en fait j'aurais dû regarder vraiment quel était le produit, l'application, voir des vidéos de gens qui l'appliquent pour voir si c'était le résultat que je voulais. Et après, pour certaines techniques de drague, du type coller ses sourcils, etc., il y a moyen avec des cols moins chers. Moi, la première fois que j'ai commencé, c'était avec une colle 1 euro prite de merde, voilà. Mais c'est des cols qui sont toxiques, contrairement à celles que j'utilise maintenant. Donc, il faut voir en fait quelles sont les priorités aussi de ce que tu veux faire dans le maquillage. Est-ce que tu as envie de te concentrer sur des trucs très glam, très paillettes, etc., bah, investis là-dedans. Et si tu as envie de te concentrer sur des choses qui sont sur le teint, comment modifier ton teint, ton contouring et tout, bah, investis là-dedans d'abord. Et au fur et à mesure, avec aussi peut-être des échanges avec des amis, de, tiens, j'avais ce produit-là, je ne l'utilise pas, j'aime pas, je te le donne. Enfin, on fait souvent ça entre drague et je pense que c'est assez cool parce que ça coûte super cher.
Ouais. Trop bien. Eh bien, nous allons passer à la deuxième partie de ce podcast où nous nous intéressons un petit peu plus. Bah, on en a déjà pas mal parlé, mais à ton histoire personnelle, à ton rapport à ton drague. Mais avant ça, j'ai l'habitude d'envoyer une petite capsule. Si on va voir Cherry Chapstick, on peut s'attendre à des trucs comme ça. Welcome back to the sounds of the soul. The pleasure is yours, so let yourself lose control. Just feel the flow, let it go, go. Ça te fait quoi d'écouter ce petit mash-up ? Ça va un peu dans tous les sens, quoi.
Bah ouais. Et c'est ça que j'aime bien, je pense, en fait. J'aime bien ce truc de passer d'un remix des Royal Gigolo de No Milk Today à justement Pomme et ça, ouais, sa compo magnifique, sa voix magnifique. Bon, après, je le chantais en live à ce moment-là, mais d'avoir un éventail d'émotions à transmettre, de messages à transmettre, c'est hyper important pour moi, de pas juste me cantonner à être le drag sexy, le drag drôle. C'est encore une fois se cantonner à une case, et je pense que la scène est tellement, tellement précieuse en fait pour faire passer des messages aux gens. Le nombre de gens qui après les shows viennent me dire bah, ce morceau-là ça m'a super touché, ou ce morceau-là ça m'a fait vraiment du bien de rire, je pense que c'est pour ça que je le fais aussi. De pas juste pour moi avoir ce truc un peu égo trip de ok je suis BG sur scène, j'ai pas ce rapport là en tout cas avec mon corps, ou alors si je l'ai c'est pour en jouer et pour en faire un truc drôle, enfin voilà. Ouais, je pense que c'est assez cool de voir toute l'étendue en fait du territoire de Cherry Chapstick. En fait ça s'arrête jamais, c'est exponentiel, et c'est ça qui est chouette, c'est que tout peut encore se faire, quoi.
Oui, bah d'ailleurs, tu m'as fait découvrir Pomme. Donc, merci aussi pour ça.
Parce
que je m'en suis toujours pas remise non plus. Je suis allé voir en concert. J'ai juste pleuré à partir du moment où elle est arrivée sur scène sans trop comprendre.
C'était oui.
Mais
j'imagine, genre, super compliment. Dès que je te vois, je pleure.
Oui, mais pour en revenir à Cherry Chapstick, tu es non-binaire mais affable. Mm-hmm. Il y a cette image, alors qui heureusement commence à s'effacer dans le drag, mais que le drag, c'est pour des personnes amables, donc nées, ouais. Enfin, assignées hommes. Ça a été comment, du coup, de se dire que c'était possible de faire du drag, même si tu faisais pas partie de ces gens-là ?
Ça a été super dur. Je pense que je me suis interdit pendant des années d'envisager le fait de pouvoir le faire parce que tout ce que je voyais, c'était des drag queens à MAB. Et trop bien pour elles, trop bien pour leur chemin personnel. Et je fais un petit parallèle avec Drag Race aussi. Du coup, en fait, c'est trop bien de pouvoir montrer ça. Mais il n'y a pas que ça. Et purée, en fait, c'est hyper important de montrer cette diversité-là. Surtout, Drag Race, il n'y a quasi que des blanches. Enfin, mince, valide. Enfin, voilà, il y a ce truc aussi où cette norme, ça ne représente pas du tout toute la beauté qu'on peut avoir sur scène, en fait. Ou de ce qui se crée là pour l'instant à Bruxelles. À Bruxelles, c'est en train d'exploser et c'est super chouette de voir ça. Mais ouais, ça me fait rager en fait que les seules choses qu'on retienne, c'est la drag queen mince blanche qui fait en belle robe, tu vois. Et trop bien pour elle en fait, parce que je pense que c'est transgressif à plein d'endroits, mais il faut sortir de ça, quoi.
Est-ce que c'est encore vraiment transgressif des drag queens blanches, minces, valides qui font du playback sur des divas des années 80.
Je pense que je suis pas omniscient. Enfin, j'ai pas de. Voilà.
Je conscience que je lance un peu.
Oui.
Une petite bombe, mais.
Non, mais je crois que c'est hyper important. Si c'est important pour elle, c'est transgressif. Parce que on est encore dans une ville où en fait, si tu sors en robe, tu risques de te faire taper dessus. Donc oui, c'est transgressif. Mais c'est pas la seule chose transgressive. Et quitte à être transgressif, autant l'être sur tous les niveaux. Hein. Non, mais en tout cas, on ne peut pas défoncer une porte sans défoncer celle qui est à côté, et c'est en faisant front commun, et je pense un peu je parle un peu de manière activiste là, mais c'est en faisant front commun et en convergeant nos luttes qu'on peut en fait avancer tous ensemble. On ne peut pas être pour faire un parallèle, on ne peut pas être féministe sans être pour les droits des personnes trans, on ne peut pas être féministe si on délaisse les personnes racisées. Enfin, y a vraiment ce truc où c'est pas chacun dans sa merde, c'est ensemble, en fait, on est soumis à beaucoup de discriminations. Donc, défonçons ces discriminations. Et, voilà.
Trop bien. Trop bien. Mais pour revenir à ton parcours, ça a été quoi le déclencheur alors qui a fait que tu t'es dit un jour, en fait, je vais le faire?
Comme je disais tantôt, du coup, cette rencontre avec Not Allowed, le collectif Not Allowed que j'avais vu dans un squat à l'époque.
Et donc, qui rassemble des personnes non binaires,
voilà.
Qui ont fait du drag, et notamment pendant les confinements,
ouais.
En 2020-2021, et voilà. qui ont contribué à faire exploser la scène drag aujourd'hui.
C'est ça. Et il y avait vraiment ce truc où aussi j'ai rencontré une bivalente à cette période-là. Et c'était vraiment trop une rencontre toute douce et que je chéris beaucoup parce que. En tant que deux personnes non binaires AFAB, moi c'était au début que je m'outais et tout, ça me faisait du bien en fait de sentir que ce que je vivais, d'autres le partageaient aussi. Et du coup aussi de voir que NB jouait avec Not Allowed à ce moment-là, trop trop bien, t'as le droit en fait. Et t'as le droit de pas être un drag king, t'as le droit de. T'approprier les codes que tu veux et d'en faire ce que tu veux et de faire des choses peut-être qui touchent et tout. Moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans les cabarets de Not Allowed. C'était on peut faire rire, on peut donner des paillettes, mais on peut venir dire des choses politiques, on peut toucher l'intime aussi. C'était hyper important pour moi. Et aussi de voir Gottmik genre dans une émission où, après, ça reste une drag queen, mais le fait que ce soit une personne AFAB qui fasse du queen, j'étais en mode pas trop bien, et de voir une personne trans aussi sur scène, merci quoi, ouais, on en avait besoin, je pense.
Ouais, moi aussi à l'époque ça m'avait fait vachement de bien.
Ouais.
Trop bien, et du coup, donc d'après ce que j'ai vu sur ton Insta à l'été 2021, c'était ta première perf.
Oui, plus ou moins, ouais.
C'était quoi, c'était comment?
En fait, c'était ma première perf à Bruxelles, mais officiellement, enfin, il y a eu plein de petites. Première perf avant, il y a eu. Je reviens après à ta question.
Non,
mais
non, vas-y.
Ça, je fais l'ordre chronologique.
Ouais, à fond.
Il y a eu mon anniversaire des 25 ans qui s'est passé en période de Covid, confinement et tout. Et c'était la période où on pouvait inviter, genre, je crois, 5 personnes chez soi. Et j'avais 25 ans et il y avait 2 années de Covid derrière et il y avait une dépression sévère dans les baskets. Et j'étais en mode, je vais pas vivre mes 25 ans avec 2 portes, un chocolat et voilà. Et j'avais besoin en fait de rassembler mes amis. Et du coup, on a fait un cabaret silencieux dans mon salon. voilà, la police n'écoute plus, donc on peut en parler. Mais on a fait ce moment cabaret silencieux, et c'était des potes qui font de l'art, qui font du théâtre, et c'était hyper important pour moi aussi qu'elles offrent des choses. Et donc, et aussi parce que du coup, le stress d'être... Ah, c'est ton anniversaire, tu es vieux. Tu vois, ce moment un peu gênant où tout le monde te regarde et fait souffler des bougies, bah, je déteste. Et du coup, comme ça, tout le monde était stressé par son petit numéro. Et moi, je pouvais être stressée par mon anniversaire et tout le monde était stressé. C'est super. Je partage le stress, moi, comme cadeau à mon anniv, c'est génial. Wow. Mais du coup, oui, il y a eu ce premier moment où, avec un autre ami, on avait fait des petits numéros. Et c'était un peu des premières scènes, voilà, un peu. Expérimentale où je m'étais maquillée pour l'occasion, j'avais fait une moustache rose, c'est super, on avait un spot rose, donc ma moustache ne s'est pas du tout vue parce qu'elle a été annulée par le rose. Mais bref,
c'est le genre de truc qu'on apprend aussi.
C'est clair, tu vois les vidéos, tu fais mais c'est moi, il n'y a pas de ma moustache, elle est où ma moustache que j'ai mis 3 heures à faire, et tous les reliefs que j'ai fait, bon bah tant pis. Hein. Et du coup, oui, ça c'était un peu, je pense, le tout début de Chérie Chapstick. Et puis après, en été qui suivait, il y a eu. Une scène dans un festival organisé toujours par le même groupe de potes en France, dans un jardin, voilà, en mode camping. Et on a fait les drag queens du camping. Voilà, on a fait un petit numéro avec toujours cette amie qui débutait avec moi, où on se maquillait un petit peu à deux et tout. Et en faisant ça, en voyant la manière de faire danser les gens et tout, c'est là la première fois où j'ai fait Welcome to the Internet, le numéro avec lequel j'ai commencé. Bah, en fait, ça m'a vraiment plu et tout. Et... Donc, juste un mois après, je pense, j'ai fait cette fameuse scène à Bruxelles qui s'appelait Queer Up the Stage. C'était devant le Crazy Circle. Moi, j'étais... Enfin, il y avait deux scènes. Il y avait une scène l'après-midi et une scène le soir. Et j'ai eu la chance de faire cette première scène au Crazy Circle en faisant Welcome to the Internet avec ma fameuse veste verte avec plein de paillettes que j'avais trouvées sur Vinted. J'étais en mode, oh oui, je vais la mettre pour toutes les Saint-Patrick du monde. et en la faisant, en fait, je me suis juste éclatée. Parce qu'il y avait le jeu avec le public, parce que le public était très proche aussi. Donc ce moment où je viens dans le public pour faire un petit moment avec une victime et lui lancer des paillettes dessus. Bon, d'ailleurs, c'était marrant parce que mes paillettes étaient éclatées dans mon torse. J'avais pas bien prévu en fait la petite goupille, donc je faisais ma torso deux jours plus tard, tu vois. Donc je suis en mode, mon Dieu, il va y avoir des paillettes partout dans ma torso, le chirurgien va me détester et tout. Enfin bref, c'était ma première scène et la dernière fois que j'ai performé avec mes boobs, donc rip à eux. C'était super.
C'est beau d'aller sur au bloc opératoire couvert de paillettes.
Je pense pas que ce soit très hygiénique.
Bon, si on prend ce genre de
oui.
considération-là, évidemment.
Oui, c'était pas très très réfléchi, je pense, parce que j'aurais dû très fortement porter un masque, hein, voilà. Mais je pense que j'étais dans une période tellement de frénésie que j'étais juste en mode vite faire des choses, enlever mes poupes, et ça va être super. Et cette scène-là, j'ai eu la chance de rencontrer la veuve qui me suivait déjà un peu sur mon compte Insta, que j'avais créé un peu avant, et qui m'a dit « Vous êtes gentil, vous vous faites des trucs en dehors, vous avez d'autres numéros ?» J'étais « Bonjour, oui !» Et du coup, voilà, elle m'a permis de petit à petit intégrer le cabaret Mademoiselle quelques mois plus tard. Et donc, merci beaucoup à elle, parce que je pense que ça m'a fait du bien d'être reconnue aussi par rapport à mon travail, parce que le drag, c'est du travail. Et aussi, en tant qu'artiste, moi, je jouais pas beaucoup avant. J'étais beaucoup en mise en scène, en aide de projet, pour principalement des mecs cis-hétéros qui me respectaient à moitié. Et du coup, il y avait un peu ce truc de « Ok, là, c'est ton moment, t'as le droit d'être là, t'as cette légitimité-là. » Et c'est important que tu le fasses. Et ça, je le travaille encore aujourd'hui, parce que je suis là, oui, non, vous mentez. syndrome de l'imposteur, bonjour. Mais oui, je pense que toutes ces personnes qui m'ont permis de faire mon art, je pense à la veuve, à ma sœur, enfin, NB aussi, qui était fort là pour moi, c'est hyper important, en fait, de pouvoir les remercier, et de pouvoir se dire, j'ai droit, en fait, à cette récompense à mon travail, tu vois.
À fond.
Voilà.
Trop bien. Puis en plus, ça casse le mythe du génie qui se fait tout seul parce qu'il est tellement au-dessus de la mêlée par
son
art formidable.
Il y a plein d'idées, il y a plein de génies, mais il y a beaucoup de travail. Mmh. C'est hyper important de le verbaliser, parce que je vois qu'il y a plein de baby drag qui, ou même de jeunes drag qui ne sont pas forcément baby, mais qui veulent la scène, qui, et c'est trop bien, prenez-la, mais travaillez, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain, et s'il y a des choses qui se passent pas bien, c'est pas grave, on retravaille dessus. C'est hyper important de... Je pense, si tu veux faire ça professionnellement, d'investir du temps, en fait, pour travailler tes numéros. Ça se fait pas... Enfin, tu peux pas faire le grand écart en un jour, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment la nouvelle expression queer. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ton grand écart ne s'est pas fait en un jour.
J'adore.
Enfin, je sais pas si c'est queer, mais ça me fait rire.
Non, mais je vois. Je vois pourquoi tu dis que c'est queer. En tout cas, effectivement, il y a ce truc. Et quitte même, en fait, parfois à se blesser, quoi. À vouloir tout de suite faire des stuns, faire des death drops et tout. Alors qu'en fait, c'est des techniques. Ça s'apprend, ouais. Ça se travaille.
Même se blesser... psychologiquement, je pense,
oui,
de se confronter à une scène, de se confronter à des gens qui vont avoir un avis sur toi, qui vont avoir un avis sur ton maquillage. Faut être consciente que c'est très intimidant aussi. Tu viens sur scène devant plein de gens qui te regardent et tu viens livrer quelque chose, que ce soit même une danse hyper sexy, bah, tu viens te livrer quand même là-dessus. Donc c'est un cadeau que tu fais, mais qui parfois peut être mal reçu. Et du coup, je pense qu'il y a un peu ce truc de... course de fame entre guillemets, parce que le drag est très à la mode, trop bien, parce qu'enfin on a le regard dessus, et moi je viens aussi de la période de ah, le drag est à la mode, je vais en faire aussi, tu vois, je me replace aussi là-dedans, mais ça vient pas en un jour, et si ça vient, y a les mauvais côtés aussi, un peu entre guillemets, quoi.
Ouais,
voilà.
Non, mais oui, super intéressant. Mais on parle souvent justement du drag comme une scène qui est très, très accueillante, qui est très, très bienveillante. Toi, tu vois aussi des côtés moins roses et moins parfaits, entre guillemets, aux scènes drag. Ou peut-être en fait le fait d'arriver aux Mademoiselles, c'est aussi d'autres publics que dans des soirées plus alternatives ou...
Oui, je pense. Le fait que Mademoiselle a un public qui n'est pas forcément queer. Ça différencie déjà des scènes que j'avais pu faire avant, où du coup je jouais dans des squats et face à mes potes, donc qui n'étaient pas forcément queer, mais il y avait cette connaissance en tout cas de bon, Eden, c'est le pote trans, on va pas trop parler de ça, mais voilà. mais en fait, c'est super parfois de se confronter à un public qui n'est pas concerné du tout, parce que c'est le moment de faire passer des messages. Et même si elles ne comprennent pas du tout ce que je fous là, s'il y a une personne un jour qui m'a fait je ne sais pas ce que vous êtes à la base, hein, mais c'est génial. Et je dis, merci. Et du coup, genre, je traduis, tu vois. Enfin, je sais que cette personne n'aura pas tous les termes que dans la communauté queer, on met en place pour éviter de se blesser et tout. Donc je fais, ok, je parle à cette personne-là, je remets dans le contexte. En fait, c'est hyper bienveillant de venir avec ça en faisant... c'est super, j'ai pas besoin de le savoir et c'est génial. Et à contrario, parfois, oui, effectivement, il y a pas mal de gens qui sont là. Oui, je pensais que vous étiez un homme déguisé en femme, mais maintenant que je vous ai entendu parler, j'ai compris ce que vous êtes. Et je suis là, c'est super, Janine. Voilà, bonne soirée, ouais, oui. Finis ta bière et au revoir. Et en fait, je pense que c'est pas parce qu'on est queer aussi qu'on est forcément safe. Et oui, et je l'ai appris aussi en organisant des événements, on n'est jamais safe pour tout le monde. On est toujours en train d'apprendre. Donc c'est important, je pense, de dédiaboliser les personnes cis-hétéro, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas juste le vocabulaire pour pouvoir parler de choses intimes, mais en fait, il y a plein de gens chez qui ça remue. Et dans les soirées queer, ou même dans les bars queer où les meufs hétéro sont acceptées, en fait, elles ne sont pas forcément safe. Et les personnes queer blanches ne sont pas forcément safe pour tout le monde. J'en fais partie aussi. Enfin, voilà, on est toujours en train d'apprendre. Et ce que j'ai pu vivre comme moment un peu malencontreux dans des soirées queer, ça m'est arrivé aussi à Mademoiselle. Enfin, le fait d'être touchée, par exemple.
Oui, ça t'en parle souvent. C'est vraiment un problème que tu rencontres régulièrement.
Ouais, vraiment. En fait, il y a différents stades, entre guillemets, mais... il y a le « Ah, c'était super !» Tu sais, en tendant la main, en te caressant le bras, en voulant capter ton attention parce que t'es en train de parler avec quelqu'un. Mais en fait, bon, déjà, moi, je suis neuroatypique, donc déjà, enfin, genre, tu me touches, et genre « Ne me touche pas voilà. !» Je supporte vraiment pas ça, donc en fait, faut arrêter de faire ça, en règle générale. Puis, on vient toucher ton costume. Non, tu touches pas le costume, il coûte cher, le costume. Il est fragile, le costume, tu touches pas le costume. La perruque, le machin. Enfin, voilà, il y a ce truc-là. Il y a aussi... le rapport, je pense, de séduction qui arrive aussi en drague. Parce que sur scène, oui, effectivement, je me dénude, je porte des habits qui parfois sont un peu sexy, un peu drôle, un peu machin. Et donc, il y a ce truc de « tu t'es montré comme ça, j'ai le droit, entre gros guillemets, de venir te toucher, t'apostropher, te mettre la main au niveau de la taille, tu vois.
Ah ouais.
Et ça n'arrive pas que dans des soirées hétéros, ouais. Ce genre de choses. Donc en fait, le consentement, c'est partout. Et ça arrive aussi, dans des cas très rares, des interactions beaucoup plus violentes, de type... je repense à cette meuf, elle était complètement bourrée à Mademoiselle, et en fait, elle était jetée sur moi pendant que je faisais de Johnny. Mais c'était la fin de soirée, et je sais que ce numéro-là, je le fais quand les gens sont principalement bourrés. Je sais pas, elle s'est jetée sur moi pour m'apostropher et ce moment-là était un peu mal contrôlé. Je suis en mode non, ne me touche pas. Et il y a eu un autre moment où vraiment il y a une personne qui m'a claqué le cul à la fin d'un numéro à The Agenda dans un bar. Parce que l'alcool, parce que vraiment au moment de saluer, en fait je passe et on me claque le cul. Et c'est la première fois où j'ai réussi à interrompre ce que je faisais en drague pour dire mais en fait toi tu sors. Parce que c'est pas du tout ok, c'est une agression, je suis pas là pour recevoir ça, t'es pas là pour croire que les artistes sont à ta disposition. Même dans un club de strip, tu ne claques pas les gens,
clairement.
Hors de question. Enfin,
wow.
Voilà, et c'est pas parce que t'es petite hétéra dans un club gay et qu'en un coup c'est super gay gnagnagna, que tu peux te permettre de claquer les gens comme ça.
Mmh. Mais super important parce qu'en plus souvent... Du côté artiste et finalement victime de ce genre de comportement, en fait, on a un phénomène de sidération.
Ouais.
Parce qu'on est dans notre perf. Parce
ouais,
que
ouais.
Aussi, c'est tellement soudain et tellement inattendu qu'on ne sait pas comment réagir. Et donc, parfois, juste on sourit et on continue. Et en fait, ouais. Ça ne veut pas dire que c'est OK pour autant.
Oui, c'est ça.
Et ça ne veut pas dire que c'est une pratique à continuer pour autant. Donc,
Mais je pense qu'il faut déjà. Enfin, le fait que je me sois retournée et que j'ai dit toi, tu sors, c'est parce que j'étais à The Agenda, un bar. Que je connais, avec des gens que je connais, des gens sur le plateau que je connaissais, et je me sens à l'aise là-bas pour pouvoir justement mettre ce genre de cadre.
Et un bar qui se veut en tout cas ouvertement LGBT+.
C'est ça, et qui se veut safer place, qui a un discours à l'entrée en disant voilà, vous êtes dans un bar LGBT, qu'il y a plus. Enfin, il y a des notions de consentement qui sont dites avant d'entrer dans le bar, donc en fait non, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas lieu d'être nulle part, mais surtout là, moi je me sentais pas seule en fait. Il y a des moments où, effectivement, si tu te sens seul, t'es dans ce moment de sidération. Mais je pense que quand t'es artiste et quand juste tu subis une discrimination, c'est dur, en fait, de sortir de cet état de freeze, de biche face au camion qui est... non. Et ouais, je crois que ça vient aussi du fait que ce jour-là, j'avais les cuillères, l'énergie pour dire stop, en fait. Et... Voilà, et donc la personne a été gentiment sortie du bar par l'équipe de The Agenda, que je remercie encore beaucoup, parce que c'est hyper important aussi quand vous accueillez des shows drag, en général, chers auditeurs, de prévoir en fait ce truc de safer place, de protection vers les drags. On a fait un moment des scènes où, dans les répétitions, on nous fait des doigts d'honneur à travers la vitre, le gars débarque, enfin, il n'y avait personne. Pour nous protéger à ce moment-là, on a dû gueuler, genre, en fait, il y a quelqu'un qui vient régler ça ou c'est à nous, en tant que drague, en se faisant bien harceler là tout de suite physiquement, qu'on doit faire quoi on en vient aux mains ou, je sais pas. Et en fait, ça fait peur, parce que t'es dans un endroit de vulnérabilité, comme je disais tantôt, t'es déjà sur scène, tu vas déjà préparer un truc comme ça. Et en plus de ça, on vient, on peut t'agresser, on peut te cracher dessus... j'ai eu des remarques très déplacées parfois, j'ai eu des regards très déplacés, oui, effectivement, des gens qui débarquent au milieu de ton numéro pour tout et enfin, calmez-vous, quoi. Laissez-nous vivre avec nos paillettes, je ne sais pas. Du coup, c'est de là aussi qu'est sorti un costume que j'avais commandé à une créatrice avec des pics. Genre, vraiment, genre, ne me touche pas, tu vois, que c'est très douillet pour moi, mais d'un autre côté, ça renvoie le truc de laisse loin, tu vois. Voilà.
Eh ben, en parallèle de tout ça, donc on l'a dit, tu as fait la même école de théâtre que moi, le Conservatoire Royal de Mons.
Oui.
Tu continues à porter ou à jouer dans des projets de théâtre.
Mm-hmm.
Ça fait quoi d'évoluer sur ces deux tableaux-là ?
Pour moi, c'est compliqué. Le théâtre, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, le théâtre en général. Pas besoin de guillemets, c'est compliqué. C'est galère, il n'y a pas de thunes, c'est la merde. Mais en fait, c'est compliqué pour moi parce que c'est un rythme de productivité, enfin de comment créer ton spectacle, très différent du drag. le drag, on t'appelle, oh, tu veux bien jouer ce week-end, voilà, moi je demande à ce qu'on se soit très organisé parce que j'ai besoin de cadrage dans ma vie pour les agendas et tout. Et contrairement à ça, le théâtre, bah, c'est 3 ans à l'avance. Tu t'envoies des dossiers, tu réfléchis à ton projet en amont, tu prépares des moments de répétition bien à l'avance, nanana. Enfin, y a un côté pas concret pour moi dans le théâtre qui est très compliqué pour moi parce que c'est compliqué, voilà. Et je crois qu'en fait, en faisant du drag, ça me permet de revenir à ce truc de proposer des choses au théâtre avec les outils que j'ai, et aussi pas de frustration de ne pas jouer. Moi, c'est ce que je ressentais un peu avant de commencer le drag, c'était que j'étais dans cette frustration d'être dans la position de metteuse en scène, d'auteurice, enfin d'aide au projet des Mexicettes, sans moi en fait pouvoir partager ce que j'ai à partager. Et au point que bah, je me sentais juste comme une grosse merde à ce moment-là, tu vois, parce que j'étais, non, mais je serai jamais actrice, nanana. Alors qu'au conservatoire, enfin, je jouais et ça me faisait trop du bien. Donc, ouais, je crois que c'est assez compliqué, mais c'est compliqué pour tout le monde. Quand t'es artiste, c'est super compliqué. Que tu sois artiste de théâtre, artiste de drag, et auteur aussi, c'est galère. Mais ça me permet pas du tout d'en vivre. C'est pas un job plein temps. Et quand c'est plein temps, en fait, tout le monde finit en burn-out. Parce que c'est vraiment galère. Oui. Parce qu'en fait, t'as cette pression de la thune qui vient quand même. On est dans un système capitaliste où l'art est difficilement capitalisable. Enfin, voilà.
Rentable, quoi, ouais, financièrement.
Voilà. Ouais. Ouais. C'est pas un modèle économique pratique, quoi. Et du coup, c'est ça qui est dur. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes font aussi un métier alimentaire à côté qui prend du temps, qui ne permet pas parfois de travailler sur des choses artistiques, mais qui permettent de manger. Mmh. Et en fait, entre être sur scène et manger, moi, mon choix, il est vite fait. Je vais manger d'abord, quoi.
Ben oui.
Donc, voilà.
Yes. Et donc, le drag actuellement, même en ayant rejoint le cabaret Mademoiselle et en performant quand même pas mal, pour le moment, c'est un à côté, entre guillemets, ouais. Par rapport justement à cette nécessité de payer ses factures et de mettre de la nourriture dans le frigo, quoi.
Ouais, bah, techniquement, même si et j'ai beaucoup de chance d'être bien bookée pour l'instant, et donc merci la vie, tout ça, merci les gens et tout, et merci moi pour le travail que je fais aussi, pour le dire. Mais en fait, ça, effectivement, ça permet pas de manger quand t'es payé 100 euros. La représentation, que t'es booké 3 fois, ça te fait 300 euros sur le mois. 300 euros sur le mois, je paye pas mon loyer, tu vois. Enfin,
ouais.
Donc oui, moi, effectivement, parlons économiquement.
Non, mais c'est bien, c'est important.
Oui, en fait, on parlait ça aussi tout à l'heure de la vie de rêve, Star Machine et tout, mais en fait, Star Machine, pour l'instant, est au CPAS et a ça en complément, tu vois. Et je suis très content d'être au CPAS, j'ai jamais été aussi riche de ma vie, tu vois. Enfin, je viens quand même d'un truc assez précaire. Où j'avais 200 euros pour le mois, et j'étais en mode « Wouhou, fais péter la thune !» Enfin voilà, c'est quand même assez galère pour mon côté, parce que j'ai pas encore le statut d'artiste aussi, mais même quand t'as le statut d'artiste, c'est pas pratique, quoi.
Oui, voilà. Moi qui ai le statut d'artiste, alors c'est très confortable et je me sens extrêmement riche, j'ai 1600 euros par mois garantis tous les mois, c'est waouh.
Sugar mommy.
Voilà, mais c'est 1600 euros par mois.
Oui, c'est ça.
avec un loyer à payer et tout, effectivement, ça fond très vite. Nous allons arrêter de parler des sujets qui fâchent et revenir à un sujet plus chouette, parce que tu dis que tu es performeuse en drag, mais tu organises aussi des shows. Depuis octobre 2022, tu organises un collectif formidable qui s'appelle La Baraka King.
Oui.
C'est né comment, La Baraka King ?
Déjà, je suis pas tout seul à La Baraka King. Maintenant, dans le noyau, on est 5. Il y a Ernesto Coyote, NB Valent, Diclan, Mama Tituba et moi. Et en fait, c'est né d'un projet d'un drag king de Paris qui voulait booker des kings bruxellois au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris. Donc, ok, trop cool. Donc, en fait, il m'avait contacté sur Insta et j'étais en mode « Ah ouais, trop bien, mais il y a aussi telle personne. » Enfin, tu vois, j'essaye de renvoyer un peu la balle vers les copains. Et donc, ce gars nous a booké avec Ernesto, Diclan, NB et moi. Donc, trop chouette d'être enfin bookés ensemble. Mm-hmm. Parce que généralement, c'est « je vais prendre un drag king pour ma soirée. Non, tu ressembles trop à une bivalente. Je vais prendre plutôt... » Tu vois, il y a un peu ce truc de « vous faites un peu la même chose, ouais, hein, vous avez des couleurs. »
Il y a de la tokenisation drag king, drag queer.
Oui, et comme il y a de la tokenisation personne racisée, mm-hmm. Tu vois, aussi dans... C'est pour ça, les peaux de minuit, du coup, c'est trop bien que ce collectif existe.
À fond.
Et oui, c'est hyper important que ce genre de show existe parce que... et de rassembler. Je pense, pour éviter d'être dans la tokenisation. On va pas tokeniser une drag queen, on va en faire cinq.
Eh ben oui.
Tu vois. Et il y a un peu ce truc, je pense qu'on avait besoin de se rassembler en jouant là-bas, en rencontrant d'autres kings de Paris qui avaient des scènes juste king. On se disait, ah, mais c'est trop cool en fait. Ne fût-ce que pour le care en fait, qu'il y avait dans les vestiaires. Moi, c'est quelque chose où je me dis, bah, tiens, c'est pas quelque chose que je rencontre tout le temps, tu vois.
Et même avec des drag queens en loge.
Oui, en général, moi, j'ai jamais eu de soucis avec des drag queens en loge et tout. Enfin, tout le monde a été toujours très très bienveillant envers moi. Mais je sais pas, il y a un truc qui rassemble aussi. On a un vécu qui est commun. On a aussi une envie de sortir du stéréotype féminin. Pour la plupart des drag kings de notre destination naissance, ça veut pas dire que toutes les personnes qui font du drag king sont affables. Au contraire, c'est trop bien. Que ça puisse évoluer aussi. Mais on amène des sujets qui sont parfois pas amenés par des drag queens, parce qu'on a des expériences différentes. Et donc, c'était hyper important pour nous de pouvoir proposer ça sur Bruxelles, et surtout qu'on a kiffé bosser ensemble, et qu'on se disait, bah, c'est trop dommage, en fait, de s'abandonner là, quoi. Et du coup, on s'est dit, venez, on va faire une scène, et on va faire une scène dans un lieu où... on peut être rémunéré pour le travail qu'on fait, et une scène dans un lieu où on peut montrer le show à des gens qui n'ont peut-être pas la thune de pouvoir venir le voir. Et donc il y a un peu ce truc, ce double booking, et c'est hyper important pour nous en fait, d'amener le drag king queer ailleurs en fait, que juste dans des lieux entre guillemets...
alternatifs.
Oui, c'est ça en fait. De pouvoir être visible sur la scène drag, c'est hyper important, parce que quand tu vois... encore Drag Race Belgique ou ce genre de choses, quand tu penses au drag, tu penses à la drag queen. Il y a tellement de choses qui se font dans le drag king et queer que c'est important pour nous. Mais moi, quand j'ai débuté, j'étais en mode je veux pas faire le drag king, il y a pas grand chose à faire. Et il y avait un truc très très dénigrant que j'avais à l'époque par rapport à l'art du king, où j'étais en mode c'est moins stylé quoi. Mais parce que il y a moins de vision, on va dire, fancy de la masculinité. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le king, c'est de pouvoir dire il y a toutes ces masculinités là qui existent, et on peut les glorifier de autrement que en étant toxique, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi que le drag king est moins booké ou moins visible, c'est parce qu'en fait on remet en question une masculinité, on remet en question des fondements de ce qui est on va dire le goal à atteindre, tu vois.
Oui, mais oui, à fond. À fond. J'ai vu il y a pas longtemps Ernesto Coyote en sirène.
Ouais.
Ça faisait tellement de bien.
Il est incroyable ce numéro, j'adore.
De voir de la masculinité sirène, c'est merveilleux.
Mais oui, en fait, et on sort de.
En triton, du coup.
Ouais, c'était un sirénaud, du coup, il l'appelle
voilà.
Comme ça.
Ah ben voilà.
Sirénaud, voilà. Et c'est cool de sortir justement de l'hypersexualisation qu'on a de certaines images dites féminines. Voilà, par exemple, la sirène, c'est un truc où la petite sirène, elle a quand même une taille très fine, dans le Disney, le film Disney, elle est blanche.
Pas longtemps, j'ai vu passer sur les réseaux une photo d'une statue de sirène qui avait des fesses.
Oh,
tu vois, on en est là.
Ah ouais, mais jamais elles sont grosses les sirènes.
Eh ben non,
c'est
évidemment.
Ursula la méchante, qui est grosse.
Qui d'ailleurs
hein.
Est inspirée d'une drague.
Oui,
divine. Horrible.
Oui, c'est ça, tu vois.
Et bien queer coded.
Ouais. comme beaucoup de méchantes Disney à l'époque, on s'entend. mais oui, en fait, ça remet beaucoup de choses en question, je pense, et c'est pour ça que la Baraka King est hyper importante à faire exister, parce que déjà, ça met en lumière des artistes qui sont moins visibles sur la scène drague. Ça met en lumière des masculinités qui sont pas glorifiées entre guillemets, parce que c'est parfois des masculinités sensibles, et qu'on voit rarement ça, je trouve. Et aussi parce qu'en fait on en voit plein. Et donc il y a pas le drag king, c'est cette facette-là. Et on a des drags non binaires, on a des drags créatures qui font partie du collectif, et c'est hyper important pour nous en fait aussi de pouvoir ouvrir juste encore la case, la fameuse case de qu'est-ce que c'est que le drag king, quoi, tu vois. Voilà.
Parfait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Chérie pour l'avenir?
De l'argent.
De l'argent.
Non,
de la moula.
Non, mais je pense, moi j'ai envie de me souhaiter un peu de. Ouais, je sais pas, de confort dans la création. Les créations drag, comme les créations théâtrales aussi, ne sont pas payées quand tu crées les premières fois. Et en fait, on revient souvent à l'argent parce que l'argent permet le confort. Voilà. C'était pas juste en mode.
Et donne de l'énergie.
C'est ça, en fait. Et ta charge mentale de. Je sais pas comment payer mon truc, c'est enlevé. Et du coup, tu peux penser à tellement d'autres choses. Donc, j'ai un peu envie de me souhaiter ça.
Oui, puis il y a simplement l'énergie aussi de. Une fois que tu as passé une journée dans ton boulot alimentaire et que tu rentres, il est 18h, tu es parti à 7h30 chez toi pour aller à ton boulot, tu n'as pas forcément l'énergie de te faire une full face pour essayer ta full
c'est
face
clair.
Ou de te mettre à coudre ta tenue qui doit être prête pour dans une semaine.
C'est clair, quoi. Ouais.
Donc oui, clairement.
Ouais, c'est ça. Et je crois aussi que moi, j'ai envie plus d'inclusivité dans les scènes en général, que ce soit de l'inclusivité... des personnes sur scène, donc que ce soit pas que des personnes blanches, minces, valides, etc. Mais aussi dans le public, le nombre de shows que je viens voir où il y a des stromboscopes et on m'a pas prévenu, moi c'est quelque chose que je ne supporte pas du tout. En fait, les chaises aussi parfois ne sont pas adaptées aux personnes grosses. Enfin, l'accessibilité pour les personnes en fauteuil n'est parfois pas possible parce que le lieu n'a pas les subventions pour. Et en fait, on revient toujours à cette question d'argent. L'accessibilité a besoin d'argent. Et moi, j'ai envie de pouvoir performer dans des lieux accessibles parce que c'est hyper important pour moi et que j'aurais envie de performer dans des lieux où moi, je pourrais venir voir des shows. Voilà. Donc,
et puis, on va souhaiter plein de paillettes et plein de bonheur en général.
Oh, voilà. Très bien. Eh bien, nous quittons avec les questions rituelles que je pose à chaque invité. Alors, Chérie Tchafti, est-ce que le drag va changer le monde?
Oui. J'ai merci, convaincue. Oui, je pense qu'il y a un besoin de changer des choses. Et en même temps, il y a un truc de récupération mainstream très fort. Et donc, est-ce que ça change les choses en devenant mainstream? Bah oui, parce que ça fait que le message est transmis. Mais est-ce qu'en même temps, on se modifie pas un petit peu pour rentrer dans la case mainstream? Je crois que ça va changer quelques trucs, mais j'ai peur que ça reproduise en fait encore des systèmes d'oppression, des systèmes de, je sais pas, de booking aussi, que maintenant c'est que les queens qui seront passées à la télé, qui vont être bookées, enfin voilà, j'ai pas envie que ça arrive à ça, et ce serait quand même vachement dommage, quoi.
Ouais. Tu pouvais t'inventer un nouveau drag de zéro, ce serait qui, ce serait quoi?
J'ai mis tellement de temps à trouver Chérie Chapstick. Non mais le nom déjà, j'ai mis
oui,
des mois.
On n'a pas parlé de ce nom. Oh, ça purée. Vient Chérie Chapstick.
Ça vient de I Kissed a Girl, la chanson où à un moment donné Katy Perry fait I Kissed a Girl, I Like the Taste of Her Cherry Chapstick. Et du coup j'étais en mode.
C'est de ça.
Et oui. Wow. Chérie, du coup la cerise en anglais, le modifier en faisant mon chéri, ma chérie, à l'inclusif, et de mettre ce point médian. Qui est très important, que parfois dans beaucoup de com, pour l'instant j'ai beaucoup de com qui mettent chérie, point normal, et je fais alors merci déjà de mettre le point, mais c'est pas celui-là. Et le but c'est justement qu'on rende visible ce petit point médian qui peut-être est un peu compliqué pour plein de personnes parce que ça met un point au milieu de la phrase, on est en mode what the fuck, mais en fait la langue elle évolue tout le temps. Et pour moi, chérie Chapstick, c'est ce truc d'évolution de la langue aussi. Et parce que la langue non-binaire est une langue. Pas écrite dans le dictionnaire pour l'instant, à part le Yale, super. Et de voir ça, en tout cas, c'était hyper important pour moi. Et ouais, non, j'ai mis des mois, hein. J'en pouvais plus. Je jure, mais genre.
Non, mais c'est une affaire, hein, le nom.
Oh,
c'est une histoire. Ok, donc on va c'est laisser clair. Chérie Chapstick.
Ouais, ouais, c'est bien. Mais en plus, tu vois, genre, je peux pas réinventer un truc parce que je réinvente tout le temps Chérie Chapstick.
Oui, tu te
en
sens
fonction...
pas du tout limité.
Ouais, c'est Chapstick. Ça.
Oui, donc ça, c'est tant mieux du coup.
Oui, ce sera plus des évolutions Pokémon qu'une réinvention, tu vois. Bientôt, Chérie Chapstick en mode tortank avec des jets d'eau sur les épaules, préparez-vous.
Eh bien, justement, t'as déjà une idée pour ton prochain numéro? Parce que t'as une productivité qui est assez impressionnante. On a appris pendant l'émission que c'était dû à tes nombreuses
Clairement. Non, mais et aussi, c'est dû au booking, où par exemple, si tu as une soirée à thème, eh ben, on va dire, fais une soirée, un truc dans le thème. Et je suis en mode, mais j'ai rien dans le thème. Bon, ben, je vais inventer un truc. Ok, première chose à laquelle je pense. Enfin, voilà. Et, oui, je pense que j'ai un esprit qui part un peu vite dans tous les sens. Et que c'est un petit avantage, mais le désavantage, c'est que ben, j'ai des looks basiques. Voilà.
Bon, t'es quand même une vache. Enfin, tu deviens une vache sur scène. C'est quand même peu.
Oui, ça vient par exemple d'une soirée à thème. Tu vois, et je me suis dit, il faut que je la rentabilise cette vache. Elle m'a coûté cher, tu vois. Donc là, elle est bien rentabilisée dans plusieurs numéros. Donc c'est bien, tu vois. C'est devenu une icône, tu vois. Donc voilà. Mais oui, je sais pas exactement. En fait, c'est un peu très très aléatoire les nouveaux numéros. Mais je sais pas, j'aurais envie de repartir sur du chant, qui est un peu une de mes premiers, enfin un de mes premiers médiums. Mais je stresse toujours parce que je connais pas bien les retours, je sais pas si je chante bien dans le micro, etc. Donc au niveau de la technique du chant, j'aurais envie de développer un peu ça.
C'est vrai qu'en plus, pour faire un peu de chant aussi en drag, souvent quand même en drag, tu es dans des scènes où les gens ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire de chanter sur scène.
Ouais,
d'avoir
clairement.
Des retours qui sont potables,
ouais.
D'avoir un niveau de micro qui ne va pas l'arséner
ouais.
Quand tu arrives sur scène.
C'est clair.
Des choses comme ça.
Ouais, et même juste du temps pour répéter, quoi.
Ouais.
Parfois, tu arrives, les techniciens ne sont pas là, techniciens et techniciennes ne sont pas là. Tu débarques, tu te dis, bon, bah,
pas de balance micro.
On croise les doigts, quoi. Ou même quand les techniciens sont là, ils oublient de mettre la lumière, donc tu chantes dans le vide. Et t'es là, genre, ok, super. Enfin voilà, mais c'est tout un travail d'équipe, hein, tout ça. Mais,
bah oui, ouais. À fond. Et enfin, plutôt freak ou plutôt merveille ?
Oh, merveille, je crois.
Merveille.
Il y a ce truc de. Chez Ajapsic, ça m'a permis de rendre beau des moments de dysphorie, de rendre beau un corps qui. À l'époque était tout nouveau pour moi, bah, après ma torsoplastie par exemple, donc la fameuse scène à Queerzity, c'était la première fois où j'enlevais mon t-shirt devant des gens, bon, de manière très aléatoire parce que j'avais le micro en main, j'étais en mode ah merde j'avais pas réfléchi à ça, tiens public, prends le micro, et je me souviens que t'étais là genre prends le micro devant toi, aide-le putain.
Ce genre de moment.
Voilà, ce moment où tu fais j'ai pas réfléchi à ça, assumons. et c'était hyper important pour moi de pouvoir montrer que mon corps trans il est beau. Que à l'époque en tout cas mon corps trans pas mince était beau aussi et oui je crois qu'il y a ce truc de merveilleux en fait dans la créature drag qui se dégage de ça et des messages que ça fait passer.
Trop bien,
voilà,
c'est un très beau mot final. Merci beaucoup chérie.
Merci.
C'est merveilleux de t'avoir et puis eh ben, le meilleur pour la suite et à très bientôt.
Bah, pour toi aussi. En fait,
merci.
Ce serait quand même chouette.
Ah bah oui,
oh.
On y travaille. Hein.
Ah bah, c'est bien, travaillez d'eau.
Allez, d'eau. Travail,
allez ouais. Sur ce, je me tire.
Allez, sans lui que ça.
Vous venez d'écouter Freaks et Merveilles, et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoiles et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé, pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à elle.